Alors on continue ensemble ce matin le livre des Actes et j'aimerais qu'on lise chapitre 19, versets 8 à 22. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Alors, on continue ici la traversée du livre des Actes des Apôtres. Paul est dans cette ville d'Éphèse, et il y a une succession d'événements qui peuvent se recouper autour d'un thème, et c'est le thème du témoignage. Est-ce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ ? Jésus nous a dit, avant de partir pour son ciel de gloire, il a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et si on a reçu cette puissance, le Saint-Esprit, alors, de fait, nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. Mais posons-nous la question, sommes-nous des témoins réellement dans notre vie quotidienne ? Est-ce que là où nous passons, nous laissons la trace, nous laissons la bonne odeur ou l'exemple de Jésus-Christ ? Et juste pour introduire, j'aimerais rappeler que la source du témoignage vient d'une vie qui est vécue par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que nous témoignons ? Ce n'est pas simplement juste un commandement où Dieu nous dit qu'il faut que nous soyons des témoins. Mais ce qui fait que nous témoignons, c'est surtout une vie qui est vécue par le Saint-Esprit. Celui qui reçoit cette puissance et qui laisse cette puissance s'exprimer, vivre en lui, alors eh bien, il rend témoignage par sa vie, par ses actes, par ses paroles, par tout ce qu'il est en fait. Le témoignage, eh bien, ressort. Et plus Jésus croit en nous, plus il grandit en nous, plus, eh bien, cette vie, elle déborde, elle s'exprime. C'est donc parce que nous marchons avec le Seigneur que nous devenons des témoins. Il est intéressant de voir le sens originel du mot « témoin hein, » qui a fait cette traduction en français. C'est le mot grec « martus », donc qui a donné « martyr ». Et les premiers témoins, c'était donc les premiers martyrs de la foi chrétienne. Et ils témoignaient par leur non-violence, par leur fidélité à Jésus-Christ au sein des persécutions alors qu'ils chantaient encore des cantiques quand ils étaient parfois sur des bûchers. Ils témoignaient par leur bonté à l'égard de ceux qui leur faisaient du mal, bonté à l'égard des méchants, par leur serviabilité, leur douceur à l'égard de tous, et puis par une parole à chaque fois qui était empreinte de celle du maître. Et donc la vie de témoin, c'est celle qui marche avec Jésus-Christ jour après jour. Et c'est le fait d'être en lui et de demeurer en lui qui fait que, naturellement, on devient un témoin. Celui qui freine des cas de fer parce qu'il ne veut pas marcher avec le Seigneur, il ne veut pas obéir, il ne veut pas céder sa vie, eh bien, il n'est pas un témoin. De fait, il ne sera pas un témoin. Il va passer complètement aperçu au milieu d'un monde où il sera comme les autres hommes. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et on peut être comme les autres hommes, parce qu'on ne marche pas avec le Seigneur, et on aime ceux qui nous aiment, et on ne va pas au-delà. Et finalement, eh bien, on est comme les autres, avec de l'égoïsme, avec du péché, avec de l'hypocrisie parfois. Ou bien on peut marcher avec le Seigneur et puis prier pour ceux qui ne nous aiment pas, qui nous font du mal, et être différent, être à l'image de notre Père qui est parfait, qui nous demande d'être parfait. Et c'est ça qui fait la différence et qui fait de nous des vrais témoins de Jésus-Christ. On vit de la vie de Jésus-Christ et la vie s'exprime par l'amour, par le pardon, par la grâce, la miséricorde. Mais cette vie, elle n'est possible que dans le renoncement. Quand on offre nos membres comme des instruments de justice, alors, la puissance que nous avons reçue fait de nous des témoins par nos paroles, notre vie, nos actes, nos actions, nos attitudes. Et notre texte de ce matin répond à la question « Qu'est-ce que le témoignage ?» ou « Qu'est-ce qu'un témoin ?» Qu'est-ce que c'est finalement un témoin ? On va relire le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, je l'ai dit, témoin. Le témoin, c'est martus en grec, qui est devenu martyr. Mais aujourd'hui, le sens commun de témoin, c'est quelqu'un qui rend un témoignage. Et l'apôtre Paul, on peut dire... Il fut une des personnes qui a rendu avec le plus de ferveur témoignage de celui qu'il avait sauvé. C'est pour cela qu'il entrait dans les synagogues, il rendait témoignage à son sauveur Jésus-Christ. Et on voit dans ce verset 8 un aspect du témoignage. Il est dit que Paul s'efforçait de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, il argumentait, il développait, il répondait, il argumentait encore, il avançait. Il était incisif dans sa manière, il voulait convaincre. Alors, le monde aujourd'hui est très à l'affût du prosélytisme. Ah, c'est interdit, on ne fait pas de prosélytisme. Et c'est très, très mal vu, ce n'est pas politiquement correct de faire du prosélytisme. Mais Paul ne se faisait pas un problème de conscience avec l'idée de faire des prosélytes, de les amener à la foi en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est l'ordre du Seigneur Jésus. Il a donné à tous ceux qui l'aiment cet ordre. Il a dit « Faites de toutes les nations des disciples. Allez-y, allez-y. Prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc, il y a une nécessité de défendre notre foi. Si on le croit de tout notre cœur, alors on va défendre notre foi. D'ailleurs, Paul dit ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, verset 11, il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Et c'est le même mot grec ici que notre passage. Et tout vrai témoin est convaincu et il cherche à convaincre parce qu'il est convaincu. Alors bien sûr, ce n'est pas le fait d'être convaincu qui prouve que notre témoignage est vrai. Il y a plein de gens qui sont convaincus dans le monde, mais ils croient des choses qui sont erronées, parfois un peu folles même, ou mensongères. La conviction ne prouve pas la vérité. Mais de l'autre côté, la vérité ne peut produire que des convaincus. Si on saisit cette vérité, eh bien, on est convaincu. Et si on est convaincu, eh bien, on le partage, on le dit. Quand on touche du doigt la vérité et qu'elle nous saisit comme Jésus-Christ nous a saisis, alors on ne peut pas rester muet. Le psalmiste dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et Paul rajoute, il dit « Eh bien, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous parlons, nous cherchons à convaincre les hommes. » C'est vrai qu'il n'est pas forcément dans le caractère de tous hein, d'être naturellement un peu direct, incisif ou d'argumenter. Hein. Parfois, eh bien, voilà, on ne se sent pas trop de commencer à essayer d'argumenter sur la foi. Mais Jésus a dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Donc, c'est notre part aussi. Et ailleurs, on trouve cette exhortation de Pierre qui nous dit « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur, respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, le fait de défendre, d'argumenter, de tâcher de convaincre de cette vérité, ça fait partie du témoignage. C'est une part. On doit aussi le faire. Il ne faut pas forcément le fuir ou l'éviter à tout prix. C'est quelque chose de nécessaire. Nécessaire d'abord pour les autres. Parce que la Bible dit, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc si on ne prêche pas, ils ne vont pas pouvoir saisir l'Évangile. Et de l'autre côté, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour nous, parce que ça nous édifie de partager notre foi. Combien de fois, eh bien, vous l'avez peut-être vécu, hein, on ne va pas bien, et puis on a l'occasion de partager notre foi et on se sent beaucoup mieux après. On était peut-être déconnecté et on s'est reconnecté avec le Seigneur. Et donc ça, c'est un aspect du témoignage. Le témoin cherche à convaincre. Voilà, voyons maintenant un autre aspect. Versets 9 et 10. « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Et la suite de l'histoire nous montre donc ici que Paul va devoir s'adapter à l'opposition qu'il va recevoir ici, dans cette ville d'Éphèse. Alors on peut dire que le témoignage qu'il a rendu, d'une manière générale, a été bien accueilli. Mais ici, quelques-uns, simplement quelques-uns, sont restés endurcis, incrédule. Et devant le message de l'Évangile, le message de la Bible, de Jésus-Christ, soit, eh bien, on se ferme, on s'endurcit, on n'accepte pas, soit on s'ouvre et on le reçoit et on l'accepte dans notre cœur, on l'accueille. Et ici, eh bien, ces hommes, eh bien, ont commencé à s'endurcir. Et ça ne dépend pas du message, vous savez. Le message est toujours le même, c'est le message de l'Évangile, mais ça dépend de nos cœurs, comment nous, on accepte ou on se ferme. Est-ce qu'on accepte l'Évangile ou est-ce qu'on le refuse? Et là, on voit, il a suffi d'une poignée, petite poignée de belliqueux, de méchants, d'agressifs, pour que les choses changent. On lit qu'il décriait devant la multitude la voix du Seigneur. Et si le témoin, d'une part, va chercher à convaincre, un autre aspect, c'est que le témoin, il doit aussi être sage. Et témoigner dans le Seigneur, c'est témoigner aussi avec sagesse. Et on voit ici que Paul ne va pas s'obstiner. Il voit que, à cause de ses incrédules, ça va être quelque chose de préjudiciable pour la multitude qui est en train de les écouter, dire des choses mauvaises sur la voix du Seigneur, sur la parole de Dieu, sur l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait marche arrière. Il se retire. Il sépare les disciples. Il s'efface. Et le bon témoin n'est pas un provocateur qui cherche le conflit. Au contraire, il veut gagner les cœurs. il veut gagner le plus grand nombre. Alors, eh bien, il ne va pas rentrer dans une joute publique. Et c'est pas, la question n'est pas de « il faut que je prouve que j'ai raison ». Oui, vous avez raison. Mais des fois, il faut savoir se taire et rien dire. Ce n'est pas grave. Une autre occasion viendra. Et l'important ici, pour Paul, c'était le témoignage devant tous. Et on peut retenir cette phrase. C'est que la défense de la vérité s'arrête là où le témoignage est menacé. La défense de la vérité s'arrête là où le témoignage est menacé. Très souvent, dans l'Écriture, on voit ces mises en garde contre les discussions folles et inutiles. Les proverbes nous disent « Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » On ne doit pas être au milieu de tout ça. Et donc, le témoin sage, eh bien, il va savoir aussi prendre du retrait, se mettre en recul. Le but, ce n'est pas de faire un coup d'éclat et puis après d'être rejeté pour toujours. Non, il vaut mieux user de sagesse et chercher plutôt à avoir un témoignage qui dure dans le temps. Et plutôt que de saisir la multitude, et en plus, quand vous savez, il y a des gens qui commencent à décrier, ça rassemble encore plus de monde. Hein. Alors on peut imaginer que il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais non, Paul dit non, on arrête là. On va plutôt chercher un témoignage discret, mais qui dure dans le temps. Alors, eh bien, nous lisons, il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. 2 ans où il n'était plus sur la place publique, mais 2 ans dans l'efficacité. En sorte que, il est dit que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alors, il faut savoir que de cette église d'Éphèse, Paul et ses collègues ont rayonné dans toute l'Asie. Et c'est certainement dans ce temps que furent créées toutes les églises de l'Apocalypse, donc les premières églises, au début de l'Apocalypse. Ils ont rayonné dans toute l'Asie. C'est pour ça qu'il est dit que, ils entendirent tous le témoignage. Le témoignage s'est répandu partout. Alors, du fait de certains vieux manuscrits, qui ont un ajout ici, il y a un petit ajout dans ces manuscrits, on a supposé que Paul utilisait l'école de Tyrannus aux heures où Tyrannus n'enseignait pas à lui. C'est pour ça qu'il pouvait profiter, louer ou avoir à prêter ses locaux, on ne sait pas. Après, il y a la question de ce nom de Tyrannus. Est-ce que le nom de Tyrannus était un surnom que ses élèves donnaient Tyrannus, c'est tyran. Donc, on se pose la question. Quand même, des parents qui appellent leur fils tyran. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contraste ici. Entre un Paul, d'un côté, dont le nom signifie « petit », et de l'autre côté, un Tyrannus, dont le nom signifie « tyran ». Et Paul n'était plus un tyran qui dominait sur les autres. C'est ce qu'il pouvait paraître autrefois, alors qu'il était engagé dans son pharisaïsme. Il était comme un tyran, dominé sur les autres. Mais là, il a changé. Il devient petit et il veut le bien de tous les Éphésiens, afin que tous puissent connaître le Seigneur. Alors, le témoin cherche à convaincre, mais aussi le témoin sait s'arrêter, agir avec sagesse, afin que son témoignage dure dans le temps. Ensuite, le témoin, c'est aussi quelqu'un qui va compter sur Dieu. Versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Et on est ici véritablement devant des miracles extraordinaires. Alors d'abord, c'est utile d'expliquer pourquoi Paul faisait des miracles ou pouvait faire ces miracles extraordinaires, alors que finalement, quand on regarde aujourd'hui l'ensemble du christianisme, de la vraie foi en Jésus-Christ, on trouve assez peu ce genre de miracles extraordinaires. Pourquoi Dieu ne donne pas cette même puissance, ce même pouvoir? Bien sûr, Dieu a toujours, il n'a pas changé lui, il peut toujours guérir de la même manière, Mais pourquoi ça a changé? C'est Paul qui nous dit lui-même. Vous pouvez garder votre main dans Actes. Et on va lire d'abord 2 Corinthiens 12:12. Ici, Paul dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et divers miracles. » Les preuves de son apostolat ont éclaté, d'abord par la patience dans les épreuves, mais aussi par les signes, par les prodiges, par les miracles. Et il en fut ainsi de tous les apôtres. On lit encore Hébreux, vous pouvez prendre Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4. Il est dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres, ceux qui étaient témoins oculaires de la résurrection ou qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et donc, ces miracles extraordinaires avaient pour vocation d'appuyer le témoignage des apôtres. Une fois que le Nouveau Testament était achevé et que les apôtres s'étaient éteints, alors les miracles extraordinaires, eh bien, ont commencé à devenir de plus en plus rares. Alors Dieu n'a pas changé. Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui délivre. Et il le fait, et on le voit encore. Et on a peut-être un propre témoignage personnel, ou on l'a vu chez quelqu'un que l'on connaît. Mais il ne le fait plus de la même manière aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de malades dans les églises. Il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent dans les églises. Et puis, ce n'est pas rare de voir quelqu'un qui part, emporté par un cancer ou emporté par un arrêt du cœur ou quelque chose. On finit par mourir. Et on finit aussi par mourir de maladie. Sinon, nous vivrions des milliers d'années. Pourquoi ? Parce que le temps des guérisons et des miracles faisait partie du fondement de l'Église. C'était la base, c'était le commencement qui s'appuyait et pour appuyer le témoignage des apôtres. Maintenant, l'édifice s'est élevé et maintenant l'édifice repose sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Et on n'a plus besoin forcément de voir ou de vivre un miracle pour croire. Mais Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et eux n'avaient pas encore toute cette parole de Christ. Ils ne l'avaient pas encore parce que le Nouveau Testament n'avait pas été encore complètement écrit. Ils avaient certes l'Ancien Testament, mais pas encore le Nouveau Testament. Alors il y avait un apôtre, une personne, un juif, qui prêchait comme ça et qui annonçait Jésus-Christ. Comment croire que c'est la vérité? Dieu appuyait avec force de miracles et de signes, son témoignage pour qu'il soit reçu, accepté. Mais nous avons toute la Bible, nous avons tout le Nouveau Testament. Nous pouvons donc aujourd'hui croire simplement en lisant les Écritures. C'est possible. La foi naît dans notre cœur quand on lit la parole de Dieu parce qu'elle est vérité et elle est puissante. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on ne peut plus être guéri miraculeusement, pardon? Alors non, bien sûr, c'est toujours possible d'être guéri de manière extraordinaire. Mais ce qui était la norme dans la présence des apôtres, c'était la norme. Ils étaient tous guéris et devenu maintenant l'exception. On peut prier pour la guérison et nous devrions le faire même. Dieu peut guérir et il le fait parfois selon sa volonté. Mais il est possible aussi que notre guérison ne vienne pas dans un rétablissement physique, mais plutôt par une puissance qui nous aide à traverser la maladie. Je reste toujours avec cet exemple d'Adolphe Monod. Adolphe Monod, donc, qui a été pasteur protestant, qui était atteint d'un cancer et que l'on ne soignait pas à l'époque avec la chimiothérapie et tous les traitements que nous avons aujourd'hui. Et donc, qui est resté pendant les 3 dernières années de sa vie allongé sur un lit. Et c'était des étudiants qui venaient et il enseignait ces étudiants. Il leur parlait. Mais comment leur parlait-il? C'était empreint de Dieu, de l'Esprit. Chaque parole était du pain béni. Et il nourrissait comme ça, ça sortait. Rempli de l'Esprit, cet homme. Mais malade, malade. C'était un homme de Dieu, malade physiquement et allongé constamment sur un lit, mais c'était un homme spirituellement debout pour le Seigneur. Il était debout avec Dieu. Et Dieu ne guérit plus de la même manière aujourd'hui. Pardon, si Dieu ne guérit plus de la même manière aujourd'hui, c'est aussi qu'il veut façonner des chrétiens qui sont spirituellement debout. Car il est plus important d'être debout spirituellement que debout physiquement. Et c'est souvent là qu'est la victoire. Même s'il ne faut pas exclure complètement la guérison, c'est possible. Dans l'Ancien Testament, on lit que le roi Asa a eu tort de ne pas prier pour sa guérison. Il était malade des pieds. Il est dit qu'il n'a jamais demandé à l'Éternel que l'Éternel le guérisse. Et il ne faut pas qu'on soit comme lui. On devrait le faire. Si nous sommes malades, il faut chercher la face de Dieu, demander à Dieu qu'il nous guérisse dans sa grâce. Il l'a fait pour d'autres, il peut le faire pour nous. Mais si la guérison ne vient pas, si la conviction dans notre cœur est bien et que nous ne serons peut-être pas guéris, alors eh bien, on peut prier pour une guérison spirituelle. Qu'on soit guéri dans notre âme, pour qu'on soit spirituellement debout, en bonne santé spirituelle, malgré nos peines, nos souffrances physiques. Mais j'aimerais revenir sur le témoignage maintenant. Revenir sur le fait qu'un témoin, c'est quelqu'un qui va compter sur Dieu. Parce que dans le témoignage, Dieu peut agir au travers de nous et malgré nous. Et c'est merveilleux. Dieu peut agir aussi malgré nous. Alors bien sûr, Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais ici, nous lisons que la chose est même allée bien au-delà que lui-même aurait pu l'imaginer. Puisque simplement des mouchoirs et des linges qui avaient été en contact avec Paul suffisaient pour que la puissance de vie se répande et aille guérir encore d'autres personnes. Ça fait penser à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang dans les évangiles. Elle a touché Jésus par derrière, il est dit. Il est écrit, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle a seulement touché le bord du vêtement de Jésus par la foi, en fait. C'est sa foi, hein. C'est ça qui a tout fait, qui a tout changé. Mais par ce geste, la puissance de guérison est parvenue jusqu'à cette femme. Et elle a été guérie. Et de la même manière, la puissance de guérison, la puissance de vie du Seigneur passait par un simple mouchoir et allait guérir d'autres personnes. Et on peut souligner ici quelque chose. C'est que la vie du témoin peut être si imprégnée de la vie du Seigneur qu'elle se communique de manière insoupçonnée. Ça se communique, on ne sait pas comment, mais Dieu le permet. On ne peut pas imaginer de quoi le Seigneur est capable. Hein. Il peut se servir de manière inattendue pour communiquer sa grâce, son salut, sa présence, son amour. Dieu peut se servir d'un geste. On fait un geste, c'est rien du tout un geste, mais un geste d'amitié. Et ce geste change tout dans la vie de la personne parce qu'il y voit Dieu. Elle y voit Dieu. Il peut se servir d'un regard de bienveillance. Il peut se servir d'une parole prononcée innocemment, on ne sait pas, mais dans le flot des paroles, il y en a une qui vient atteindre le cœur. Il peut se servir d'une action faite par hasard, en tout cas. Pour nous, c'est du hasard, mais Dieu sait, Dieu permet. Je me souviens de quelqu'un qui a été bouleversé, ça a contribué à sa conversion. Avant de se convertir, elle a été bouleversée parce qu'elle a entendu... innocemment, hein, elle a entendu un chrétien demander pardon à un autre chrétien. Et elle s'est dit, mais j'ai jamais vu ça. C'est possible, ça? s'humilier, demander pardon à un autre. Mais ça là, c'était quelque chose qui l'a atteint. Et c'est touchant parce que ça signifie que Dieu peut même se servir de vos chutes. C'était une chute ici. Si nous savons bien gérer nos chutes, si nous les gérons avec humilité dans le Seigneur, reconnaissant, ben Dieu peut se servir aussi de ça. Dieu peut se glorifier d'une manière insoupçonnée, inattendue. Dieu est puissant pour atteindre un cœur et pour communiquer sa vie, comme il s'est servi d'un mouchoir pour délivrer et guérir. Donc en tant que témoin, nous convaincons, nous cherchons aussi ce qui est le plus sage, et puis on s'appuie sur Dieu. Ça, c'est la part de la foi. On fait tout ce qu'on peut, mais après, on fait confiance. On doit faire confiance. Dieu répond à nos prières. Alors, on ne sait pas comment, mais il le fera. Versets 13 et 15. Acte 19, versets 13 et 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Alors d'abord, c'est triste de voir que des fils d'un principal sacrificateur étaient complètement égarés hein, dans des choses occultes. Hein, et c'était comme certains sorciers hein, qui pouvaient faire des incantations, réciter des prières magiques. Ils ont cru simplement que prononcer le nom du Seigneur Jésus, eh bien, ça allait produire un effet miracle. Mais j'aimerais qu'on relise ce que l'esprit malin va dire à ces hommes. Il répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et un témoin de Jésus-Christ, c'est aussi quelqu'un qui est connu par les puissances d'en haut. Il est connu par les puissances d'en haut. L'esprit malin sait parfaitement qui est Paul. Pourquoi ? Parce que Paul est sur les genoux. Paul est sur ses genoux. Il prie. Il intercède pour ses frères et sœurs. Il intercède pour l'Église. Il intercède pour les âmes qui périssent. Ils le connaissent. Ils ont affaire à lui parce que ses prières sont efficaces. Et ils savent que, il y a un ennemi là. Il y a un ennemi. Comment sommes-nous vus par le Seigneur ? Par les démons, pardon. Est-ce qu'on est vu comme un ennemi pour eux ? Ou on est... inconnu. Je sais qui est Paul. Et la prière devrait être l'arme principale du témoin. On pense souvent à tort, on se dit un bon témoin, c'est quelqu'un qui a du bagou. C'est quelqu'un qui, il n'a pas peur de parler. C'est vrai, c'est un avantage. Mais aussi, on peut avoir plein de bagou et puis, ça n'avance pas beaucoup. Parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui est sur les genoux. Il prie. Il prie. Il demande à Dieu les paroles. Il demande à Dieu la sagesse. Il demande à Dieu la grâce. Il demande à Dieu que tout, que Dieu fasse tout. Seigneur, fais tout. Je suis incapable. Et après, il a foi. Il se repose sur le Seigneur. Et c'est dans le secret de notre intimité avec le Seigneur qu'on va puiser la puissance. On va puiser les paroles. On va puiser tout ce qui nous manque. L'esprit malin ne connaissait pas ces sept fils de Séva. Par contre, il savait parfaitement qui était Paul. Le témoin, c'est un homme de prière. Ensuite, le témoin, c'est celui qui l'est par un changement de vie. Regardez versets 18 et 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et le témoin de Jésus-Christ, c'est nécessairement quelqu'un qui a vécu un vrai changement de vie. Il ne s'agit pas de dire que l'on a foi en Jésus si cette foi, elle n'est pas suivie d'actions qui sont concrètes. Celui qui ne fait rien, qui ne bouge pas et qui dit qu'il croit en Jésus, eh bien là, on peut vraiment douter de sa foi. Pourquoi ? Parce que celui qui croit, il agit, il va faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que la foi est quelque chose qui nous engage. Dans le monde, on voit plein de personnes, parfois un peu folles, qui se lancent des défis incroyables. Hein ? Maintenant, par Internet, hein, il est permis de voir les gens les plus fous sur cette terre, qui se lancent dans des exploits. Ils vont traverser des mers, traverser des déserts dans des conditions incroyables. Ils vont grimper des sommets jusqu'à en perdre parfois le bout des doigts. Ils vont parcourir des distances gigantesques. Ils vont faire des figures acrobatiques aussi. Enfin, tout est permis. Tout est permis. Mais s'ils se lancent dans ces exploits, c'est qu'ils ont foi qu'ils vont réussir. Hein? On ne se lance pas dans un truc pareil si on ne croit pas qu'on va s'en sortir. Ils ont foi. Ils se disent « ça va marcher ». Alors, ils se jettent à l'eau. Imaginez quelqu'un qui se dit « bon, moi, je vais pouvoir traverser ce détroit à la nage ». Mais jamais il se jette à l'eau. À la fin, on se dit « mais t'y crois vraiment, toi ?» Celui qui croit, il se jette à l'eau. Il y va. Parce que la foi, c'est quelque chose qui engage. Ça implique une action qui prouve que l'on croit réellement. S'il n'y a pas cette action, alors eh bien, c'est une prétendue foi plutôt qu'une foi réelle. Hein. C'est de l'incrédulité, finalement. Et il en est de même avec Jésus-Christ. Celui qui se repent et qui croit, il va s'avancer avec Jésus-Christ. Il va se jeter à l'eau, il va aller plus loin. Ici, dans notre texte, plusieurs ont confessé leurs péchés. Ils sont allés jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris tous leurs livres magiques. Ils ont fait un grand feu de joie. Il n'y avait pas beaucoup de livres à l'époque. Hein. C'était cher, les livres. Hein. Peut-être ils se sont saignés pour avoir ces livres, bien que c'était des livres occultes hein, et diaboliques. Mais c'était quelque chose. Mais quand on fait le choix de Jésus-Christ, ça exclut tous les autres choix. Si vous choisissez Jésus-Christ, ben voilà, hein, on repousse le reste. On s'engage, on avance. Celui qui croit, il agit. Il va aller jusqu'au bout de sa parole. Ça veut dire qu'il va renoncer à son péché, il va abandonner certaines choses, il va rejeter, il va peut-être brûler. Je me souviens avoir jeté des livres quand je me suis converti. Je me suis dit, mais ça ne peut plus rester dans ma bibliothèque, c'est impossible. C'est radical. Je vous avais raconté, hein, une personne m'avait tendu un sachet en disant, va jeter ça. Dedans, il y avait des crucifix, des plein de choses comme ça. Donc des supports matériels de la foi, elle a dit, écoute, va jeter ça à la poubelle pour moi, s'il te plaît. Avec plaisir. Hop, poubelle. La foi engage, la foi amène un changement, elle nous pousse. Parce qu'on croit, on croit vraiment. Donc, quand on se convertit à Jésus-Christ, il y a une rupture avec le péché. Une ferme décision de donner sa vie. Et il y a des dispositions qui sont prises pour suivre le Seigneur. Le témoin témoigne par sa conversion. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez un témoignage qui est clair, qui est évident ? On le voit, tous les gens, tous ceux qui vous connaissent, votre famille, ceux qui vous entourent peuvent le voir. Vous avez changé. Vous avez changé. Celui qui croit agit. Alors pour conclure, qu'est-ce que le témoignage ? Qu'est-ce que c'est un témoin ? Je vais prendre la chose à l'envers. C'est d'abord quelqu'un qui se convertit et qui change. Il ne fait plus les choses qu'il faisait autrefois. Il a renoncé au péché pour suivre son Seigneur. Ensuite, un témoin, c'est un homme de prière. Il est connu des démons parce qu'il intercède, il lutte. Dans la prière, il combat, il obtient des victoires. Et puis un témoin, c'est quelqu'un qui compte sur le Seigneur. Il lui fait confiance. Dieu peut communiquer la vie de manière insoupçonnée. Le témoin de Jésus-Christ, c'est aussi quelqu'un qui va être sage. Il va savoir, eh bien, mesurer. Il veut un témoignage qui est dans la durée, pas un coup d'éclat, et puis c'est terminé. Enfin, le témoin, et c'est important, c'est quelqu'un aussi qui cherche à convaincre. Il veut défendre sa foi parce qu'il y croit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si j'y crois pas, je parle pas. Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc le Saint-Esprit nous pousse dans cette direction. Il dit, « Vous êtes mes témoins, allez-y, avancez-vous, témoignez. » Si nous croyons, alors nous agirons. Et pour finir, comme le dit le verset 20, pour conclure, on peut dire, « C'est ainsi que la parole du Seigneur croîtra en puissance. » Et en force.